Bonjour à tous. C'est que je n'ai pas eu l'occasion de saluer le matin. Alors quand j'arrive le matin d'une prédication, je peux passer parfois devant vous sans vous saluer. Ce n'est pas que je veux vous négliger, c'est parce que je suis concentré sur la technique. J'essaye de vérifier que tout va bien se passer. Alors parfois, je sillonne l'église et peut-être je suis passé devant vous sans vous saluer. Donc pardon à l'avance. Si le prenez pas mal, c'est pas que je ne vais pas vous saluer, je vais m'assurer qu'avant le début du culte, tous les moyens techniques soient à l'œuvre. Donc on va voir si ça a porté ses fruits. Il faut que je me reconnecte. Ça devrait le faire. Voilà, vous aurez la conclusion à la fin. Alors une fois n'est pas coutume, on va quitter un peu la prédication textuelle suivie de l'évangile de Marc. Vous savez qu'on est dans Marc depuis pas mal de mois, de semaines déjà. On prend beaucoup de temps pour expliquer le texte. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir un message dit libre. C'est-à-dire, c'est moi qui choisis le thème. Enfin, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui choisit derrière moi. Et j'ai choisi de vous parler d'un thème que j'ai à cœur depuis de nombreux mois, que j'ai maturé, ou mûri, je ne sais pas comment on dit. Et voilà, qui pour moi revêt une importance capitale aujourd'hui. Pour introduire ce thème, on va ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc, au chapitre 21. Donc on a étudié Luc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un texte qu'on a déjà parcouru, mais je vais le remettre en lumière parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre. Donc Luc, chapitre 21, verset 34. C'est Jésus qui parle, qui réunit ses disciples, il a parlé de la fin des temps. Il va sous peu être traduit en justice, il va être trahi par Judas, renié par Pierre. Et voilà ce que Jésus va dire. Il le dit à ses disciples, mais je crois qu'il nous parle également au travers de ce texte. Donc Luc chapitre 21, verset 34. Je vais peut-être... Voilà, je vais peut-être l'afficher, mais je vous invite à suivre dans vos Bibles. Donc je lis dans la version à la Colombe, J'ai pas mal de textes aujourd'hui de la nouvelle édition de Genève, une vieille version, mais qui nous apprend pas mal de choses. « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Pour introduire mon propos, je vais peut-être, pour certains, vous rappeler des souvenirs, pour les plus anciens comme moi. En séance de SVT, à l'époque, on appelait ça sciences naturelles, on a peut-être disséqué des grenouilles. Je ne sais pas si vous avez disséqué des grenouilles. Maintenant, ça ne se fait plus, on met un casque de réalité virtuelle et puis on fait comme si on disséquait parce qu'il y a tous les protecteurs de la nature, etc., qui vont dire « Oh là là, on ne va pas disséquer des grenouilles ». Et cet animal, en fait, il va nous servir encore ce matin en relation avec ce texte de Luc. Alors peut-être, vous vous dites « Mais quelle relation est une grenouille et le texte de Luc ?» Alors on va essayer de voir comment faire cuire une grenouille. C'est bizarre ça pour un culte, Alors pour faire cuire une grenouille, vous avez deux solutions. Vous avez la solution brutale, c'est la technique riz. Vous faites bouillir une casserole d'eau, vous prenez la grenouille et puis vous la jetez dans la casserole. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va s'enfuir la grenouille. Et mon texte ne marche pas, je rate mon effet. Qu'est-ce qui se passe? Bon, donc la grenouille, elle s'enfuit. Et puis vous avez une autre technique Parce que si vous jetez une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va réagir tout de suite. C'est normal, c'est la réaction de cause à effet. Et puis, vous avez la technique dite subtile, c'est-à-dire vous allez faire bouillir la casserole d'eau tout doucement, et vous allez essayer de séduire la grenouille. C'est-à-dire, vous allez la mettre dans un milieu qu'elle connaît bien, l'eau, la casserole, et puis vous allez agir sur son bien-être en lui faisant sentir une température de plus en plus chaude. Vous allez augmenter la température tout doucement. Et là, la grenouille, elle est comme vous dans un spa, c'est-à-dire qu'elle va se sentir très bien. Puis progressivement, vous augmentez la température, et à un moment donné, il fait tellement chaud que les muscles se paralysent, elle s'endort, elle est bien, et elle finit par cuire. Alors on a un petit souci technique, on va essayer autre chose. C'est normal, hein, quand vous allez voir le sujet, c'est normal qu'on soit attaqué, que je sois attaqué. Donc on va essayer de voir autre chose. Bon, c'est pas grave. Donc cette métaphore peut peut-être vous faire sourire, et pourtant elle illustre une réalité qui est peut-être triste pour nous. Et j'aimerais ce matin voir ensemble comment le Satan s'y prend pour faire la même chose que je voulais faire à la grenouille. Comment il s'y prend avec nous, non pas pour nous cuire, mais c'est tout comme, comment il s'y prend pour détourner notre attention de notre relation avec Dieu, pour nous détourner de Dieu. Comment le Satan s'y prend pour détourner notre relation avec Dieu. Et vous voyez, déjà, là, il y a de l'opposition parce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas que je parle de ce sujet. Donc j'ai été attaqué cette semaine, et vous voyez, je voulais présenter quelques diapos, mais ce n'est pas grave parce que la parole de Dieu va quand même être annoncée. Je ne sais pas si ça vous intéresse comme sujet. De toute façon, vous n'avez pas le choix, hein, vous êtes là. Alors, qui aimerait repartir avec des pistes claires pour ne pas se laisser cuire à feu doux par le Satan? Qui, ici? Bon, ben les autres, vous pouvez partir si vous voulez. Voilà, alors, ce que je voudrais, c'est déjà rappeler, en préambule, c'est quoi notre vocation d'enfant de Dieu. Nous avons été créés, nous dit Éphésiens, chapitre 2, verset 10, nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Donc, si on veut rentrer dans les bonnes œuvres que Satan a préparées d'avance pour que Dieu a préparées d'avance pour nous, eh bien, il faut être vigilant, il faut être en intimité avec Jésus. Ah ben ça y est, j'ai ma grenouille. Ah, on va la voir là, qui saute. Hein, et puis là, elle est bien dans son, hein, d'accord. Elle est très très bien la grenouille. Vous voyez, elle est tranquille. Et finalement, elle cuit. Bon, ça c'est pour la, voilà. Ça c'est pour notre titre. Merci beaucoup les... Voilà. Donc je reviens à notre vocation. Pour rentrer pleinement dans cette vocation d'enfant de Dieu, eh bien, il faut qu'on soit en étroite relation avec Jésus. Parce que Jésus, c'est celui qui nous fait connaître Dieu, et c'est lui qui nous fait connaître la volonté. Donc déjà, dans un premier temps, chacun d'entre nous, nous sommes responsables de découvrir quel est notre don, quelle est notre vocation, pourquoi Dieu, en tant que Père, à quoi il nous a destiné chacun. On a chacun un... On est dans le plan de Dieu, on a chacun une mission sur cette terre. Vous n'êtes pas sur cette terre pour passer d'un jour après l'autre, pour faire un dimanche après un autre. Vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas là pour vivre la vie tranquillement puis attendre que ça se passe. Dieu nous a donné une mission à chacun et c'est à nous de connaître sa volonté. Pour connaître sa volonté, il faut être en intimité avec lui parce que c'est lui qui, au quotidien, va nous donner des instructions de diverses manières. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la manière principale avec laquelle il nous parle, c'est la parole de Dieu. Hébreux 1 nous dit que dans les derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils, par la parole de Dieu. Et donc, il faut avoir cette intimité. Et l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est l'intimité avec Jésus. Et la mission de Satan, c'est de rompre cette intimité. Alors, deux mots sur le Satan. Pourquoi je dis le Satan? Parce que Satan... C'est un nom commun, ce n'est pas un nom. On s'imagine que dans le ciel, il y a deux forces. Il y a Dieu et il y a Satan. Voilà, Satan avec un grand S, un nom propre. Voilà. Puis les deux s'affrontent et à un moment donné, il y a des batailles, etc. Et puis on sait quand même en tant que chrétien que Dieu est vainqueur. Bah, c'est faux. C'est une fausse image. Dans le ciel, il y a Dieu et il y a tout le reste. Martial nous l'a rappelé ce matin. Il y a Dieu et c'est tout. Et quelque part, il y a une créature qui n'a pas de nom, qui a été créée, une belle créature, qui à un moment donné s'est révoltée. Elle a voulu se faire Dieu et elle a été châtiée, punie, rejetée. On le lit en Ésaïe 14. Je n'ai pas le temps de le lire, mais regardez dans Ésaïe 14. Ésaïe le présente sous les traits du roi de Babylone. Et, par exemple, il est dit, « Tu es tombé astre brillant. » Donc, astre brillant, c'est un qualificatif, ce n'est pas un nom. D'accord ? Donc, le Satan, ça veut dire l'adversaire, tout simplement. C'est un nom propre, c'est un nom commun, pardon, qui veut dire l'adversaire. Et l'adversaire a été précipité avec sa horde de démons avec lui, parce que Jésus les a vaincus sur la croix. Hein, Colossiens 2,15 nous dit, « Il a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrés publiquement en spectacle. » Et aujourd'hui, le Satan, il attend sa condamnation définitive et éternelle, telle qu'on le lit dans la parole de Dieu. Vous savez, le Satan, c'est un peu comme le méchant dans les films d'Hitchcock. Hein, il y en a qui aiment Hitchcock, là, qui connaissent un peu parmi les anciens. Hein, il y a toujours le méchant. Hein, c'est le méchant qui est perdu, et quand il est perdu, il veut entraîner tous les autres derrière lui. Hein, ben c'est comme ça un peu. Le Satan, ce qu'il veut faire, c'est entraîner tout le monde derrière lui. Il veut entraîner l'humanité derrière lui, et il y arrive très bien d'ailleurs. Et le cœur de la stratégie de Satan, c'est de couper littéralement cette relation d'intimité entre Dieu et les hommes. Voilà, mais il y a toujours une déconnexion là. Donc, le but, c'est de couper cette relation. Martial nous a parlé en introduction de cette relation que Dieu a voulu créer avec l'homme. Donc, le Satan, il veut couper cette relation et... Comme l'homme est pécheur par nature, ben, il veut entraîner l'homme dans son péché naturel, dans ses mauvais penchants. Il veut l'amener à rater la cible. Il veut nuire, c'est un adversaire, il veut nuire à Dieu et à ses créatures. Et le Satan, il a des siècles d'expérience. Dans la Bible, il a utilisé plein de stratagèmes différents, ayant pour but de couper cette relation dont on a parlé plus haut de l'homme avec Dieu. On en voit par exemple un exemple dans le défi de Job, le défi qui est lancé à Job à son insu. Le but, c'est d'amener Job à maudire Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que sa femme lui suggère. Maudit Dieu et meurt, hein, elle lui dit. D'accord ? Donc, pendant des siècles, le Satan a cherché une attaque frontale. Par exemple, il jette les compagnons de Daniel dans la fournaise. Il jette Paul et Silas en prison. Il fait intervenir les bêtes sauvages sur Blandine. Hein, Eric nous en parlera lors de la visite de Lyon. Jean Huss, il a fini sur un bûcher. Pierre Valdo a été persécuté. Ça, c'est l'attaque frontale. C'est l'eau chaude, l'eau bouillante. On lance la grenouille dans l'eau bouillante. Donc face à ça, eh bien, tous ces gens qui sont morts en martyrs, ils ont résisté parce qu'une attaque frontale, quand on est enfant de Dieu... Ben, on voit venir le truc et on est attaché à Dieu et du coup, on va résister le martyr, le bûcher. Je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est évident. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le Satan ? Ben, il essaye d'autres techniques. Et notamment, aujourd'hui, dans nos civilisations occidentales, il n'y a plus d'attaque frontale. Ou presque plus, on n'est pas très persécuté. On se prend quelques coups de couteau par-ci, par-là quand même. Mais ça n'a rien à voir avec les pays, je dis ça de manière désinvolte, excusez-moi, c'est pas du tout désinvolte, mais il y a des pays où il y a vraiment une persécution frontale, un emprisonnement, hein, Mustapha n'est pas là, mais nos frères algériens aujourd'hui, il y en a qui sont jetés en prison tous les jours, ça ne nous arrive pas d'être jetés en prison pour notre foi. Donc on a l'impression d'être épargné dans cette parenthèse historique que l'on vit aujourd'hui dans ce monde occidental. On est épargné par la persécution directe. Donc le Satan, il va utiliser d'autres techniques pour nous détourner. Souvenez-vous, le but, c'est couper cette relation avec Dieu. Donc soit je coupe cette relation avec Dieu par la mort, et là, la relation est restaurée, parce que dans le royaume d'au-delà, la relation perdure. Mais le Satan a d'autres techniques. Et l'enjeu majeur pour nous, c'est la bataille de l'attention. D'accord ? C'est la bataille de l'attention et l'enjeu, c'est Satan le Satan va essayer de nous distraire par différentes manières dont, que je voudrais voir aujourd'hui parce que c'est vraiment très très important à comprendre. L'enjeu, c'est notre attention. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'adresse à Israël, dans le Deutéronome, il y a beaucoup de versets qui commencent par « Écoute Israël », le fameux schéma Israël. Un schéma, pas un schéma comme un dessin, mais schéma Israël, ça veut dire « Écoute Israël ». Ça veut dire « Écoute, sois attentif ». Donc, l'enjeu, c'est l'attention. Et le moyen du Satan, c'est la distraction. Il va nous distraire pour couper cette relation avec Dieu. Et la question qu'il va falloir se poser ce matin, c'est qu'est-ce qui capte notre attention et qu'est-ce qui nous distrait ? Par quoi nous laissons-nous distraire ? C'est ça finalement qu'il faut comprendre. Par quoi est-ce que nous nous laissons distraire ? Et je voudrais aborder rapidement cet enjeu de la distraction avant de vous donner quand même quelques pistes par rapport à ça. Alors, très souvent, en discutant avec des frères et des sœurs qui sont parfois en difficulté spirituelle, j'entends, je n'ai pas le temps de lire la parole de Dieu. Puis de toute façon, quand je lis la parole de Dieu, je ne comprends pas grand-chose, c'est obscur pour moi. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas. Puis j'entends aussi, je manque de temps. Pourtant, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant l'opportunité de se décharger de tâches fastidieuses. On ne va plus au lavoir du village pour laver son linge. On ne marche plus à pied ou en charrette. On n'a pas plus besoin d'écrire une lettre, la porter à la poste, corriger les ratures, mettre du blanc, terminer ça. Et pourtant, combien de temps est-ce qu'on passe chaque jour avec Dieu pour lui parler, pour lire sa parole, pour lui confier nos soucis, nos craintes, nos doutes, nos émotions, nos peines de cœur, nos chagrins? Je me souviens quand j'ai visité le musée du désert à Anduze. Qui est allé au musée du désert ici ? Oh, il y en a plusieurs. Il y a une salle à un moment donné où vous voyez une famille. Donc le musée du désert, le désert c'est la période qui va de la révocation de l'édit de Nantes, fin du XVIIe siècle jusqu'à la Révolution, à peu près 100 ans, où il y a eu une intense persécution. Et on voit donc une pièce avec une famille qui est réunie, le père est là avec la parole de Dieu, et puis la famille est réunie autour de la table, ils écoutent la parole de Dieu. C'est normal, c'est le soir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas le temps de faire autre chose, il n'y a pas de télévision, rien du tout, pas de tablette. Donc ils sont là, ils écoutent la parole de Dieu. Aujourd'hui, ça ne se voit plus, on n'a plus le temps dans les familles. Chacun est derrière son écran, derrière son téléphone. Et donc, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de passer du temps avec Dieu. Et puis, il y a les écrans. Les réseaux sociaux. Alors mon but ce matin, c'est pas de faire le procès de ces choses. Parce que ces choses-là, ça fait partie de la vie dans laquelle on vit. Moi-même, vous voyez, j'ai des écrans là, j'ai 3 écrans devant moi que j'utilise, donc je ne vais pas faire le procès, parce qu'il y a des bonnes choses dans ces écrans. Ça me permet de vous projeter des trucs, ça me permet d'avoir des idées, des notes, etc. Donc il y a des choses qui sont positives, les écrans sont utiles à plein de choses. Pour le professionnel, il y a des gens qui sont tout le temps derrière leurs écrans, il y a des programmeurs informatiques, donc il faut qu'ils travaillent derrière les écrans, donc il n'y a rien là-dessus. Puis même côté perso, si je veux avoir une information, si je veux réserver un billet, si je veux assister par Zoom à une étude biblique, il n'y a rien de mal à tout ça. Mais il est important que chacun comprenne l'enjeu de ce qui se cache derrière tout ça. Parce que pour moi, c'est vraiment devenu un enjeu de civilisation. Quand on regarde Paul, dans sa parole, Paul nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Donc derrière tout cela, derrière tous ces écrans, derrière le temps qu'on passe derrière ces écrans, eh bien il y a des circuits neuronaux dans le cerveau et il y a des médiateurs chimiques. Et l'enjeu, c'est de prendre contrôle de notre volonté. Notre capacité de décider. Dieu nous a donné une volonté et une capacité de décider. Et le but de tout ce système, c'est de prendre le contrôle de notre volonté pour l'anesthésier. Un peu comme la grenouille dans l'eau chaude qui se délecte, qui se prélasse parce que la température augmente, elle est bien, elle est dans un confort. Par exemple, je poste je poste une photo sur Facebook ou sur Instagram, imaginons. Et donc, quand je poste cette photo, eh bien, je m'attends à recevoir un like. Ça y est, j'ai un like, j'ai posté ma photo. Pour les vieux comme moi qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, allez voir les jeunes à la fin du culte, demandez-leur ce que c'est qu'Instagram, un like, une photo, d'accord? Je ne vais pas vous l'expliquer là. Donc, au moment où je reçois mon like sur la photo que j'ai mise, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Mon cerveau libère une hormone qu'on appelle la dopamine, d'accord? La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de la motivation et c'est l'hormone de l'addiction aussi, d'accord? Ça nous fait du bien, je ressens une joie intense. Et cette décharge de dopamine va rythmer notre vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'elle va activer ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail de ce qui se passe dans le cerveau, mais c'est le circuit de la récompense. C'est-à-dire, j'ai une sollicitation, j'y réponds, le cerveau envoie une décharge de dopamine, je me sens bien, je me sens heureux. Alors, comme on est assez malheureux dans la vie, comme la vie est dure, eh ben, ça fait du bien de se sentir heureux. Parce que le circuit de la récompense est tout le temps activé. C'est très simple, mais il faut vraiment bien le comprendre. Je vais prendre plaisir à aller voir un petit like parce que ça me fait du bien, ça me remonte le moral quand j'ai le moral dans les chaussettes. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on va déverrouiller en moyenne, c'est une statistique qui a été mesurée, je ne vais pas vous abreuver de statistiques sur les écrans, ce n'est pas le but, mais en moyenne, on déverrouille son téléphone 220 fois par jour. C'est ce que dit la moyenne. On prend le truc, ah oui, j'ai reçu oui, une notification, machin, etc. D'accord ? Et il y a une véritable, là derrière, il y a une véritable économie des plateformes numériques. Parce que cette économie, elle est basée sur le temps passé devant les écrans. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Donc plus vous passez de temps devant les écrans, plus les plateformes encaissent de l'argent. Parce qu'il y a de la pub, il y a des profits, etc. Il y a des profits colossaux. Donc le but, c'est de vous faire passer du temps devant les écrans. Et lorsque je passe du temps devant les écrans, bah, forcément, je ne passe pas du temps à la parole de Dieu. Et après, je dis à Pierre, mais tu sais, moi, j'ai pas le temps de lire la parole de Dieu. Je peux juste ouvrir un petit truc, mon petit feuillet quotidien de méditation, là, entre deux. Voilà. Il faut comprendre que ce système, il a été pensé pour traquer les failles les plus intimes de notre système cérébral. Notre cerveau fonctionne comme ça, et le Satan, derrière tout ça, eh bien, il va traquer ses failles, et il va activer en permanence, il va vouloir activer ce circuit de la récompense, parce que je me sens bien. Alors c'est bien à court terme. Pourquoi c'est bien? Parce que le pire, c'est que la récompense, elle est facile à obtenir et elle est immédiate. Vous voyez? La récompense est facile et immédiate. Et c'est pour ça que je déverrouille mon téléphone, que je le regarde et hop, je me prends un petit shoot de dopamine et je regarde et ça me fait du bien. Le but, c'est d'éviter les temps morts pour proposer tout le temps des nouvelles choses. Quand vous êtes sur un écran, vous avez tout le temps des sollicitations qui arrivent. Vous avez des liens qui sont là en parallèle et tout. Je sais parce que je me laisse prendre. Croyez pas que je suis là à vous donner des leçons, que je suis parfait sur mon trône, etc. Je me laisse prendre, mais comme vous, et je me parle plus à moi qu'à vous peut-être. D'accord? Le but, c'est d'éviter les temps morts à cause de ce circuit de la récompense. Donc souvenez-vous, récompense facile et immédiate. Bruno Patineau a écrit il y a quelques années ce livre et il parle vraiment d'économie de l'attention. Ce n'est pas une économie en sens faire des économies, mais c'est vraiment un système qui va capter notre attention. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que quand on découvre la Bible, il faut du temps et de la patience pour trouver du plaisir à être en Dieu. Pour bénéficier de ce que j'appelle, moi, la joie de la découverte. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous lisez la parole de Dieu, vous comprenez un truc, vous êtes heureux parce que Dieu vient de vous révéler quelque chose. C'est ce qu'on appelle la joie de la découverte. Vous voyez, si on parle de récompense, la Bible, la récompense biblique, c'est une récompense qui nécessite de la patience, de la persévérance, et c'est du long terme. Or, on est dans un monde de court terme, dans le royaume de Dieu, c'est ça les mots-clés. Et justement, le monde en face va nous proposer un plaisir immédiat, un plaisir facile et vite gagné. mais qui va se payer plus tard. Elle va se payer, ça va se payer comment ? Par une solitude sans Dieu. C'est Blaise Pascal, il y a déjà très longtemps, qui disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. » Donc, si je choisis une récompense facile, immédiate, un plaisir immédiat, bah, je finis avec beaucoup de solitude, parce que quand j'ai passé 3 heures sur un écran, bah, finalement, je fais le bilan, est-ce que je suis plus heureux ? Oui, j'ai eu mes décharges de dopamine, mais je m'endors, bah, finalement, je ne suis pas plus heureux que ça. Parce que le système, dans le royaume de Dieu, fonctionne différemment. C'est John Maxwell qui disait, soit tu profites tout de suite et tu payes plus tard, soit tu payes tout de suite et tu profites plus tard. L'un ou l'autre. Je trouve que c'est très vrai. Et au début, lire la Bible, c'est beaucoup moins gratifiant que passer du temps sur les réseaux sociaux, sur son téléphone, sur ses notifications. Mais il y a un plaisir différé quand Dieu me révèle des choses cachées. Et je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont découvert dans la méditation de la parole des choses cachées. Vous dites, oh, c'est formidable ce truc. Moi, à chaque fois que je prépare un message, Dieu me révèle des trucs, je comprends des trucs parce que je passe du temps là-dessus. Il y a un chercheur en neurosciences qui s'appelle Michel Demurger, qui a écrit plusieurs livres, et qui parle de la notion de gavage. C'est-à-dire qu'il y a un gavage de toutes ces choses jusqu'au moment où il n'y a plus d'attention possible. C'est l'ère du zapping. C'est-à-dire que je reste superficiel, je change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je regarde parfois notre petite fille, qui a 3 ans, ben, elle n'arrive pas à rester pendant 20 minutes sur un jeu, un livre. Elle commence, et pourtant elle n'est pas soumise à des écrans. Hein. Alors je ne sais pas si c'est d'actualité ou quoi, mais sans arrêt, il faut changer. Au bout de 30 secondes, on commence à lire une lecture, et puis hop, on passe à autre chose. On commence quelques cubes de construction, et hop, on fait autre chose. C'est vraiment l'ère du zapping, et pour nous, c'est pareil, adultes. Et donc la parole de Dieu ne peut pas pénétrer. Si pendant 30 secondes, je lis rapidement un verset le matin, ben, la parole de Dieu ne pénètre pas. Il y en a un qui se frotte les mains, on en a parlé. Il n'a même plus rien à faire. Il a mis en place le système, et nous, on se fait avoir comme des nigauds. Faites l'expérience cette semaine. Notez chaque jour. Prenez un cahier, 2 colonnes, temps avec Dieu, temps sur mes écrans. Enlevez les écrans professionnels, tout ce que vous avez à faire qui sort de ce champ. Prenez les écrans à titre personnel, ce qui vous fait plaisir. Oh, je crois que ça s'éteint. Donc faites l'expérience cette semaine. Notez dans les 2 colonnes. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer les écrans et le téléphone. Je dis juste, le but de ce propos, c'est d'essayer de vous faire prendre conscience des enjeux et de ce qui se passe dans le monde réel. Vous voyez, il n'aime vraiment pas que je parle de ça. Non, mais c'est pas une blague. J'ai jamais eu des bugs comme ça aujourd'hui. C'est pas grave. Vous me direz, mais quel est le problème ? Pierre, quel est le problème ? Bon, c'est pas bien grave, si je passe du temps sur les écrans, bon bah voilà, je viens quand même au culte, je suis chrétien, je suis sauvé, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bah si, ça a de l'importance. Pourquoi ? Parce que c'est notre vocation dont on a parlé tout à l'heure, c'est notre vocation qui ne s'accomplit pas. Souvenez-vous, on a été créé pour de bonnes œuvres, et si notre vocation ne s'accomplit pas, eh ben, nos œuvres sont creuses et stériles. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Hein, pour ceux qui étaient là, le message sur le figuier stérile, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on vient au culte, on loue le Seigneur, on se dit bonjour, tout va bien. Mais à l'intérieur, je suis vide et je ne produis pas de fruits. C'est stérile parce que je ne peux pas me laisser conduire par la parole de Dieu. Et je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser parce que moi, le premier, je lutte contre ça en permanence. Et vous voyez, cette stratégie que le Satan emploie, elle n'est pas nouvelle. Hein, si on retourne bien longtemps en arrière, il y a 3500 ans, les Hébreux étaient en Égypte. Le peuple d'Israël, depuis 400 ans, ils sont en Égypte. Ils gémissent sous le poids de l'esclavage, ils sont soumis à dure épreuve. Et ils ne peuvent pas écouter la parole de Dieu que Moïse leur donne parce qu'il y a une oppression pesante sur eux qui capte toute leur attention. Ils ne peuvent pas... Regardez, ils ne peuvent pas, la seconde 21 traduit par impatient, j'aime bien ça, ils sont impatients, ils sont dans l'immédiat, ils sont dans la dure servitude, ils ne peuvent pas écouter Moïse. Moïse dit, je suis venu pour vous libérer, ils ne le croient pas. Aujourd'hui, certains lisent la parole de Dieu et ils la referment. Ils n'y croient pas. Dieu a-t-il réellement dit? Parce que lorsqu'une chose captive notre attention, eh bien, elle va nous détourner et on devient insensible à la parole de Dieu. Dans mon expérience personnelle, je vais vous parler de moi, rapidement, je ne parle pas beaucoup de moi, mais je voudrais que vous sachiez ce que moi je vis. Dans mon cœur, il y a ce que Martial nous a dit tout à l'heure, ce qu'on a chanté, « Je désire habiter près de toi, Seigneur ». Ça, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Mais il y a une force contraire dans mon cœur qui me pousse à ne pas rechercher Dieu. Et je dois lutter en permanence entre un écran, un téléphone, une notification, une information et la parole de Dieu. Et c'est ce que nous dit le psaume 14. Vous voyez, ce n'est pas ancien, ce n'est pas un truc qui est du 21e siècle, parce que déjà, le psalmiste disait « Nul ne recherche Dieu ». Et je suis personnellement conscient de cette tension. Je dois lutter contre ça en permanence. Et c'est pour ça, ce matin, je vous exhorte à la vigilance. Parce que je lutte tous les jours, il faut que je me batte contre ça tous les jours, il faut que je prenne des décisions, il faut que je prenne des décisions radicales. Et je me dis qu'en tant qu'être humain, peut-être certains d'entre vous luttent contre ça. Et Paul lui-même avait mis en évidence cette tension. Il écrira dans l'Épître aux Romains, je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. Malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Pour ceux qui notent, c'est Romains chapitre 7, versets 19 à 24. Qui me délivrera du corps de cette mort? Voilà, donc, face à ce constat, je ne vais pas en rajouter, je ne vais pas abreuver de statistiques, mais qu'est-ce que je peux faire de tout ça face à cette distraction qui veut capter mon attention? La première chose que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes prévenus. D'accord, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Nous n'ignorons pas ses desseins. Donc peut-être vous ignoriez que le Satan était derrière, mais aujourd'hui, vous le savez. D'accord. Même si Paul, ici, dans 2 Corinthiens 2, il parle d'un autre contexte, je pense que ce verset peut s'appliquer. Nous n'ignorons pas ses desseins. Comprendre que derrière tout ce système, il y a un enjeu à la fois commercial, mais il y a un enjeu personnel. Couper cette relation avec Dieu. Et comment faire pour la couper? Le Satan, il n'a rien à faire. Il a juste à laisser le système évoluer. Par contre, nous, si on veut restaurer cette relation, on doit être actif. Et je vais vous proposer plusieurs pistes. Donc, vous êtes prévenus, d'accord? Et puis, deuxième chose, Dieu est fidèle. La question n'est pas de savoir si vous allez être tenté. La question, c'est de savoir quand. Et vous allez être tenté dès cet après-midi, dès demain matin. Dieu nous promet qu'aucune tentation ne nous est survenue, qui n'ait été humaine. C'est normal que vous soyez tenté. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tenté. Vous êtes son enfant, il va vous protéger. Il va vous garder, mais il faut de la volonté. N'oubliez pas que la volonté, elle est là tant que je suis dans l'eau froide. Si je suis dans l'eau chaude, complètement anesthésié, je n'ai plus de volonté. Donc, je suis averti et je sais que je serai tenté. Eh bien, la première piste que j'aimerais vous donner, c'est revenir à la simplicité de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul. C'est lui le sauveur. À la fois le sauveur, mais c'est lui qui nous guide. Il nous a donné son Saint-Esprit si nous lui appartenons. Et vous voyez Paul ce qu'il dit là aux Corinthiens. Je crains que vos pensées ne se détournent. Revenez vers la simplicité de Christ. Là encore, c'est un autre contexte, mais peu importe. Retenez cet élément-là. Revenir à la simplicité de Jésus-Christ. Priez Jésus, il est là au quotidien. Seigneur Jésus, je suis tenté. Tu vois, ça fait une heure que je suis devant ce téléphone, j'arrive pas à m'en détacher. Seigneur, viens à mon secours. C'est aussi simple que ça, c'est ce que je fais. Alors, deux pistes pour ça. Premièrement, il faut veiller. Premièrement, veiller. Il y a un problème encore sur la diapo. Veiller en tenant compte de ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous ai lu ce texte tout à l'heure. Prenez garde à vous-même de cœur, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent. Ce qui est intéressant dans Luc, regardez. La première fois au verset 8, c'est ce qui est écrit en bas, il dit aux disciples, Prenez garde que vous ne soyez séduit. Séduction qui vient de l'extérieur. D'accord ? Il y a des faux Christ, des faux prophètes, etc. C'est ce qu'il dit. Mais regardez là, le texte qu'on a lu. Prenez garde à qui ? À vous-même. C'est nous. C'est pas l'extérieur, Satan qui nous séduit. C'est nous. Prenez garde à vous-même. Quand je suis devant mon écran, je dois prendre garde à moi-même. Qu'est-ce que j'en fais ? Regardez ce que Paul dit. Que vos cœurs ne s'apesantissent. Vous savez, on a fait un bon repas de Noël, c'est 4 heures de l'après-midi, on a bien bu, 5 plats, on a envie d'aller se coucher, on n'a plus de volonté, on n'a plus rien. Si quelqu'un vous dit, viens faire un jogging, oh. Non, c'est pas vrai. Nos cœurs ne s'apesantissent, Jésus, il savait comment il les fait. Car ce jour viendra comme un filet. À l'époque, on attrapait les oiseaux avec un filet. Il y a même des gladiateurs qui se battaient avec des filets. Quand on arrive à jeter un filet, quand on est empêtré dans un filet, on ne peut pas sortir. Et puis peut-être que ce mot, il a une connotation plus moderne. Comment ça se dit, Ben, un filet en anglais ? Ça se dit net ? Un filet international ? Le risque, c'est de s'endormir. Veillez donc et priez. L'objectif, c'est d'échapper. Quand on est dans un filet, on ne peut pas s'échapper. Donc si vous sentez que vous êtes pris aujourd'hui, c'est le moment de s'échapper. Seigneur, aide-moi à m'échapper. Je n'y arrive pas, je dois prendre des décisions radicales. Sinon, je m'endors comme les disciples à Gethsémané. Je m'endors comme les vierges de la parabole. Je me laisse anesthésier par l'ambiance comme notre grenouille. Donc veillez pour paraître debout devant le Fils de l'homme. Si je suis complètement avachi, empêtré dans mon filet et que Jésus revient, je vais avoir l'air de quoi ? Donc le premier point, c'est veiller. D'accord ? Pour ça, eh bien, quand je suis distrait, quand je sens que je pars, que je glisse, eh bien, c'est faire appel à Jésus. Regardez ce que Jésus va dire. Quand Pierre a péremptoirement annoncé « Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort, je t'abandonnerai jamais », voilà ce que Jésus lui répond. Satan vous a réclamé, le Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Jésus prie pour nous. Alors que nous sommes empêtrés dans nos téléphones, Jésus prie pour nous. Donc, il écoute nos prières. Seigneur, viens à mon secours. La prière flash de Néhémie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Et le Saint-Esprit qui est en nous va réveiller notre conscience. Vous vous souviendrez peut-être de ce message ce matin. Donc Jésus prie pour nous, ça c'est une bonne nouvelle. Si je veux veiller, j'y arrive pas par mes propres forces, mais Jésus va m'aider à veiller. Deuxième piste que je voudrais vous donner après veiller, c'est d'être focus. C'est quoi être focus ? Je reviens à ma vocation. Si je ne sais pas à quoi je sers sur terre, si j'enchaîne les jours les uns après les autres sans savoir ce que je vais faire, je vais me focaliser sur quoi ? Sur zéro. Donc il faut savoir pourquoi je suis là sur terre. Quels sont les dons que Dieu m'a donnés ? Quelle est la mission qu'il attend de nous ? Parce qu'à un moment donné, je vais me retrouver face à lui et je vais rendre des comptes. Si vous ne savez pas quelle est votre mission, venez me voir. On avait commencé un enseignement sur les dons de Dieu, etc. On l'avait interrompu à cause du Covid. Mais si un jour vous avez envie, revenez me voir et puis on peut travailler là-dessus. Je vais vous donner deux exemples. Il y a l'exemple de Paul. Quand il écrit aux Philippiens, voilà ce qu'il dit. Donc je vais lire Philippiens chapitre 3, versets 13 à 15. Je tends toute mon énergie vers cette seule chose. Sa seule chose, c'est rendre témoignage à la parole de Dieu. D'accord ? Son but, c'est de rendre témoignage à la parole de Dieu. Et voilà ce qu'il dit, nous qui sommes spirituellement mûrs, demeurons concentrés sur notre but. Encore une fois, si je ne connais pas mon but, je ne peux pas être concentré. Mais concentré sur le but. Paul tendait vers une chose. Il l'écrit aux Philippiens et il l'écrit à nous aussi. Je voudrais partager avec vous cette citation du poète William Matthews, si elle veut bien s'afficher. Voilà ce qu'il nous dit. « Mieux vaut être doué d'un seul talent précis et passer sa vie à le développer et à l'approfondir que poursuivre de manière superficielle une multitude de talents différents. » La clé du succès, à notre époque, où notre esprit est assailli par tant de distractions, hein, pourtant il a quelques années, cette citation, il a quelques années, est la concentration qui consiste à focaliser notre énergie, nos regards sur un point, puis nous diriger vers ce point sans jamais dévier de notre trajectoire. Ça me rappelle un verset de Proverbe, que ton pied ne dévie ni à droite ni à gauche. Une telle démarche n'est pas facile, l'adopter exige de la discipline et beaucoup de pratique. Hein, on a parlé de récompenses différées, c'est difficile au début, je commence à payer maintenant et je récolte ma récompense plus tard. C'est les clés du royaume de Dieu. Donc l'imitation de l'exemple de Paul. Deuxième exemple, l'exemple de Jésus bien sûr. Jésus nous laisse parfaitement cet exemple. Il a résisté à la tentation. Hein. Satan l'a tenté 3 fois dans le désert. C'était à chaque fois un plaisir immédiat. Ordonne que ces pierres se transforment en pain. Satisfaire ma faim, je n'ai pas mangé depuis 40 jours, j'ai le droit à manger, j'ai le droit de satisfaire ma faim, plaisir immédiat. Jésus a dit non. Ensuite, jette-toi du haut du temple, comme ça tu vas en mettre plein la vue à tout le monde te glorifiera, toi qui es un petit charpentier misérable, etc. Tu seras mis à la lumière, Jésus a dit non. Et puis après, prosterne-toi devant moi, je te donne tous les royaumes de la terre. Là, tu seras glorieux, tu seras sur ton trône. D'ailleurs, tu étais sur ton trône dans l'éternité, tu es descendu sur terre, tu as le droit d'avoir ces royaumes. Voilà ce que ça, le Satan lui dit. Et Jésus dit non une troisième fois. Il a résisté à la tentation, d'accord ? En vue de la joie qui lui était réservée. Vous voyez ? Plaisir différé, toujours. Parce que Jésus, il avait une vie intentionnelle. Il savait pourquoi il était là. Il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Et il dira, à la fin de sa vie, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Jésus est arrivé au bout parce qu'il était concentré, il veillait. Voilà 2 pistes, veiller et être focus. Si je veux conclure, j'aimerais lire ensemble avec vous Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, ceux qui l'ont, et notamment en papier, et on va lire Éphésiens 5, parce que vraiment, dans Éphésiens 5, 15, 17, on a vraiment le plan qui nous permet de sortir de ces enjeux qui sont pour moi terribles. Éphésiens 5, verset 15. Veillez donc avec soin sur votre conduite. D'accord ? Donc on l'a déjà vu. Veillez avec soin sur votre conduite, non comme des insensés ou comme des fous, mais comme des sages. Deuxième point, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Hein, racheter le temps, ce n'est pas de la monnaie. Hein, c'est littéralement mettez à profit les occasions que Dieu vous donne de manière sage. Là, le temps, ce n'est pas le chronos, c'est le kairos, c'est le temps de Dieu. Utilisez le temps de Dieu, les circonstances que Dieu vous donne. Je pense qu'aujourd'hui, ce matin, c'est un temps de Dieu où Dieu est en train de vous parler, est en train de me parler. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. J'espère que au travers de ça, vous allez comprendre, vous avez compris quelle est la volonté du Seigneur. D'accord ? Parce que c'est important pour nous disciples de comprendre dans quel temps nous vivons et de discerner ces enjeux subtils qui nous menacent. C'est des enjeux qui sont vraiment subtils. Et vous voyez, il faut savoir s'arrêter et réfléchir, prendre le temps, un peu comme les fils d'Issacar. Hein, c'est vieux ça, c'est le livre des Chroniques. Vous voyez, les fils d'Issacar, la parole nous dit qu'ils savaient discerner les temps. J'espère que vous comprenez dans quel temps nous vivons. Vous savez discerner les temps aujourd'hui. Sinon, priez le Seigneur pour que, voilà, pour qu'il vous éclaire là-dessus. Alors, il y a beaucoup de choses encore à dire sur les stratégies du Satan. J'ai parlé ici de la tension, j'ai parlé de la distraction. Il y a d'autres points à aborder. Donc, peut-être j'aurai l'occasion de l'aborder dans d'autres messages. Et notamment, comment Satan s'attaque à notre identité. J'aimerais vous laisser 2 questions finales. Et j'espère qu'elles vont pouvoir s'afficher. Sinon, je vous les cite. Première question, que m'inspire l'exemple de Jésus qui a vécu une vie intentionnelle jusqu'au bout ? Que m'inspire l'exemple de Jésus ? Et deuxième question que je vous laisse, une chose que vous, que moi, on va changer aujourd'hui dans nos habitudes à partir de ce midi. Qu'est-ce qu'on va changer ? Donc je répète 2 questions. Ah, vous voyez, le truc plante, donc je pense que... Mais c'est fini. Qu'est-ce que m'inspire l'exemple de Jésus qui a vécu une vie intentionnelle jusqu'au bout ? Et deuxième chose, c'est un truc que je vais changer dans mes habitudes à partir d'aujourd'hui. Je vais prier. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour tes mises en garde. Tu avais déjà prévu tous les dangers qui attendaient les disciples. Et tu nous laisses aussi ces paroles. Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Veillez donc et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Seigneur, aide-nous, parce que la chair est faible, je suis faible devant toi, mais toi tu es un grand Dieu, tu nous l'as rappelé par la bouche de Martial. Tu es un Dieu tout-puissant, infini. Tu peux toutes choses, Seigneur. Tu peux nous relever de ça. Tu peux nous garder du danger. Comme l'a enseigné le Seigneur Jésus dans sa parole. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est ma prière ce matin. Amen.